Torréfaction est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 134e épisode de Torréfaction. Torréfaction, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec notre petite sélection de l'actu, une sélection que j'ai réalisée avec mon ami Caféine. Bonjour Caf.
Oui, bonjour Monsieur Fasquille, comment ça va?
Ça va, un petit peu cranky aujourd'hui, mais ça va.
C'est normal, c'est une période cranky, tu vois. Et nous sommes là pour parler de trucs rigolos, voilà, qui vont un peu nous détendre dans cette atmosphère pourrie. Au moment où je dis ça, je regarde par ma fenêtre, il fait un temps pourri.
Ouais,
et vous en foutez, vous, mais moi, ça joue sur mon moral, ce genre de temps pourri. Mais on va oublier tout ça, je vais fermer les volets, on va parler jeux vidéo et informatique, et moi, ça me fait du bien.
Et avant d'attaquer le sommaire de cette émission, on va féliciter nos gagnants de la semaine dernière.
Ben oui, on a eu des gens qui ont participé et joué le jeu pour notre petit concours pour gagner des clés, enfin, deux clés, dont une Doom Eternal et une autre pour Atomic Rops. Et on a eu des gagnants, dont certains qui étaient mais vraiment, vraiment pas loin du compte est bon, comme on dit.
Tout à fait, ouais.
Parce que ça s'est joué quand même quoi, 4 secondes par rapport au truc de base. Donc là, moi, je suis assez impressionné. On avait quand même 3 ou 4 personnes qui étaient dans la minute, on va dire. Donc, ce qui n'est pas complètement évident, hein, je vous ne le cache pas. Donc, bravo à eux et on essaiera de refaire des petits trucs comme ça rigolos parce que bah, c'est marrant. Puis c'est marrant de vous voir essayer de patauger avec des questions comme ça. Ou même, moi, si je devais jouer, j'avoue que j'aurais pas été aussi bon que vous. Donc, c'était plutôt rigolo à faire.
Allez, on attaque avec le gaming et un petit jeu de vroom vroom moto.
Oui, bah, quelqu'un m'a repéré, je crois. Hein. Il y a des gens qui se sont dit, dis donc, lui, il aime bien les jeux de moto, il aime bien le moto GP, voilà. Donc, j'ai été rattrapé au vol, comme on dit, par une agence de presse qui m'a dit, dis donc, nous, on a sorti ce truc-là au mois de mars, on a peut-être bien oublié de te l'envoyer, alors que ça va t'intéresser. Effectivement, comme j'avais parlé de moto GP, l'édition 2020, la licence officielle, eux, ils se sont dit, mais nous, on a notre petit truc, là, qui est pas très connu, peut-être que les gens, ça les intéresse. Donc, parlons-en. Et de quoi parlons-nous? De TT Isle of Man, Ride on the Edge 2. J'adore les noms des jeux de mécanes, tu vois. Ça raconte un petit peu. C'est en fait un jeu qui est basé sur, pour ceux qui connaissent un petit peu le monde de la moto, savent de quoi on va parler. C'est un jeu, en fait, qui est une simulation autour de la course qui se passe sur l'île de Man, qui est une petite île qui voit une des courses de moto les plus débiles, hein, j'ai pas d'autres mots, de la planète, dans le sens où c'est une course qui voit passer des grosses bécanes très très vite dans des rues pas du tout prévues pour faire des grosses courses de moto.
Super safe.
C'est super safe. Alors, allez pas voir la page Wikipédia, vous allez voir, il y a des pertes. Hein. Il y a des gens qui ont essayé d'interdire. Enfin, c'est un peu, c'est controversé, on va dire. Donc, en jeu vidéo, bah, on s'en fout un petit peu. On s'en fout jusqu'au moment où on rate un virage et on comprend la problématique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vibreur, il n'y a pas de bac à sable. Vous touchez un trottoir, c'est au revoir et vous allez vous éclater contre la boîte aux lettres du premier voisin venu. Et c'est un petit peu un souci. C'est fait par une boîte qui s'appelle KT Racing. L'éditeur, c'est Big Ben. C'est un jeu, en fait, qui est donc disponible depuis mars. C'est pas une grande nouveauté. Et vous allez pouvoir vous éclater sur 60 km de circuit. Pourquoi on en parle? Parce que c'est plutôt bien fait. Le jeu est vraiment joli. Il y a un bon boulot sur tout ce qui est rendu sonore, sur les sensations de vitesse. C'est un titre, franchement, bien packagé. Pour quand on aime bien la bécane, il faut le connaître. C'est pas évident parce qu'ils ont pas un budget marketing de ouf. C'est pour ça qu'on en parle. Alors, il est toujours aux alentours de 50€ actuellement. Il y a un petit peu de contenu additionnel aussi qui est dispo. Je ne vous cache pas qu'effectivement, une petite promo est envisageable. Hein. Vous n'êtes pas obligé de payer full price tout de suite pour vous éclater sur ce jeu. Mais si vous êtes fan, eh ben, c'est le moment d'y aller. Moi, en tout cas, j'ai pas encore assez joué pour ne pas pester dans les virages les pires du jeu. Je manque d'entraînement encore. Mais si vous vous faites chier sur les circuits, bah là, c'est marrant parce que vous vous baladez vraiment dans un paysage qu'on n'a pas tellement l'habitude de voir dans les courses hyper rapides. En tout cas, si vous connaissez pas le monde de la moto, forcément, vous connaissez pas trop cet environnement-là et vous allez voir que il y a des photos qui vont vous surprendre sur la page Steam que j'ai linkée dans le billet qui accompagne ce podcast. Des trucs bucoliques, tu vois. Tu passes à côté de champs de fleurs, tout ça. Tu te dis, oh, je m'arrêterai bien pour regarder. Non, fonce, mon gars, fonce. Et puis, évidemment, il y a toute une partie technique pour régler sa bécane. C'est pas aussi complet que la partie MotoGP avec toute la partie carrière dont je vous avais parlé. Les mecs qui sont sur ce genre de circuit ne sont pas très connus. Donc, bah, c'est pas non plus les mêmes tarifs pour la licence. C'est aussi pour ça que eux peuvent se permettre de faire ce genre de jeu, mais ne vont pas aller se bastonner avec Milestone pour aller choper la licence du MotoGP. Donc voilà, si vous connaissez pas, allez jeter un œil, peut-être que ça vous amusera, et puis bah, la prochaine fois, on essaiera d'en parler au moment où il sort. Je pense que ça sera plus intéressant pour tout le monde.
Allez, sans transition, on passe à radicalement autre chose avec Wintermoor. Ouais, Wintermoor Tactics Club, plus exactement.
Ouais, c'est trop mignon. J'aime bien le nom Wintermoor Tactics Club. Oui, ça n'a rien à voir. On passe de la grosse bécane à la bataille de boules de neige. Alors, j'exagère un petit peu. C'est un tout petit jeu indé qui coûte la somme faramineuse de 15 euros actuellement sur Steam, qui est un jeu de tactique, un tactical RPG, mais alors extrêmement différent de ce qu'on connaît actuellement. C'est un petit jeu, hein, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas survendre ce jeu. En revanche, si vous cherchez à intéresser vos progénitures, vos héritiers à ce style de jeu, c'est une bonne entrée en matière, parce que c'est un titre qui est relativement simple d'accès. En fait, ça mélange un côté visual novel avec une partie qui se passe pendant la journée plus particulièrement, où vous avez un personnage principal qui va aller se balader, faire des petites missions, discuter avec des personnages, etc., pour récupérer en fait des objets ou débloquer des nouveaux personnages. Et les objets, vous pourrez les utiliser pendant la phase baston. La phase baston, elle est très basique. Vous avez 3 personnages sur 7, je crois, que vous pouvez avoir au maximum. Et il y a une quarantaine de combats dans le jeu. Donc, c'est vraiment pas Final Fantasy Tactics. Vous n'allez pas y passer votre vie. Ça se torche en une douzaine d'heures. Et le but du jeu, évidemment, à chaque fois, c'est de pouvoir battre de plus en plus d'ennemis sur ces petites cartes de baston. Alors, je rappelle pas le jeu de tactique. Toi, ça te parle ou pas? C'est les jeux en 3D ISO avec des petites cases.
Alors, ça me parle, mais de loin, si tu veux. J'ai jamais été un grand fan du genre. J'ai pas la patience.
Voilà, t'as jamais touché.
Voilà. Mais du coup, ça m'intéresse parce que je me dis, voilà, si c'est facile d'accès et pas trop complexe, ça peut peut-être être effectivement une porte d'entrée pour moi. Même si, à mon âge, je doute m'intéresser tout à coup au tactical.
Ouais, si t'as jamais foncé pour aller faire un XCOM ou si t'as jamais été.
Alors, XCOM, si, mais c'était il y a très longtemps quand j'avais du temps et quand j'avais du temps de cerveau à consacrer à ça.
Du temps. Enfin, c'est un choix à faire. Tu n'es pas obligé de binger Buffy pour la 42e fois, je te l'ai déjà dit.
Ou Space Force, on en reparlera.
Ah oui, voilà, il y a des choix dans la vie que tu peux faire, et à mon avis, des fois, tu fais pas les bons, c'est tout. Bon, alors après, est-ce que Wintermoor Tactics Club, c'est de faire le bon choix dans ta vie sur ça? Mais ça sera pas un nombre d'heures non plus, ou une somme engagée ultra élevée.
C'est clair.
Mais il y a quand même des petits soucis, évidemment. On est quand même sur un jeu à 15 balles, tout n'est pas parfait. C'est très statique, donc effectivement, toute la partie visuelle nouvelle, il y a des gens qui vont faire une allergie directement, je peux comprendre. Le plus chiant, en fait, c'est la musique qui est vraiment pas bonne. Ils ont vraiment une loupe qu'on a juste envie de virer. Mettez vos playlists à la place. Ça ira beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Ça, c'est vraiment raté. On sent que c'était pas, voilà, ça rentrait plus dans le budget. Ils avaient pas les bons contacts. Il s'est passé un truc. Donc, bref, ça, on oublie. Mais dans l'ensemble, c'est un petit jeu qui est pas mal. Je vous ai linké la page Metacritic pour que vous alliez vous faire un avis par vous-même sur différents petits sites. Il y a la page Steam. Allez voir tout ça. De toute façon, encore une fois, la somme engagée n'est pas énorme. Mais si vous cherchez quelque chose pour aller voir ce que ça peut être un jeu de tactique sans rentrer dans un gros gros morceau du genre tout de suite, ça peut être une entrée en matière un petit peu sympa. En tout cas, c'est à connaître. C'est pas vraiment le genre de titre qui va vous empêcher de dormir.
Allez, on reste dans les trucs accessibles au niveau budget avec du gratuit carrément. Cette fois-ci, je voulais vous parler très vite.
Ça, c'est moins accessible. Ça, j'aime bien ce niveau d'accessible.
Je voulais vous parler très vite d'un petit jeu qui s'appelle Helltaker, qui est sorti le 11 mai dernier sur Steam et qui était un peu passé sous mon radar. Je l'ai repéré grâce à un monsieur dans nos forums qui s'appelle Le Captain. Merci à lui, donc. Alors, Helltaker, c'est quoi? C'est un genre de Sokoban. Tu te souviens de Sokoban?
Non.
Ou pas du tout?
Pas du tout.
Alors, Sokoban, c'était ce truc en vue du haut sur les vieux PC où tu avais un petit bonhomme qui devait déplacer des caisses. Et en fait, en fonction, quand t'arrivais sur un mur, la caisse, elle bougeait plus, donc elle était bloquée. Tu pouvais pas tirer les caisses, donc tu devais réfléchir à le bon ordre, en fait, dans lequel tu devais déplacer les caisses pour pouvoir avancer d'un point A à un point B. En gros, c'est ça le principe.
D'accord.
Donc, c'est un jeu de réflexion, en fait, si tu veux.
Et en fait, c'est maintenant, ça twist. Je savais ce que c'était, mais il fallait que tu puisses l'expliquer. Ta-da-da-da! Je suis ingénieur, c'est un métier.
Quel talent, quel
talent. Mais oui, bien sûr.
Alors, donc c'est un genre de Sokoban, comme je disais, avec une DA plutôt sympa, beaucoup d'humour, il y a une chouette bande-son électro, enfin en tout cas ce que j'ai pu en entendre pour le moment, c'était assez sympa. Ça se passe en enfer, et ton objectif, c'est de te constituer un harem de filles démons. Voilà, tout un programme.
Ah bah voilà!
Donc bah c'est la même le même principe que Sokoban avec quelques petites modifications hein. Donc tu vas d'un point A à un point B dans une sorte de mini labyrinthe, tu dois pousser ou détruire des ennemis, des blocs de pierre, mais il y a aussi des pièges au sol et donc chaque fois que tu passes sur un piège au sol, bah tu prends une pénalité et puis au bout d'un certain nombre de pénalités, bah tu meurs. Donc il faut faire attention par où tu passes, etc. Donc il y a beaucoup de stratégie, beaucoup de tactique. C'est super fun, c'est facile à prendre en main, c'est plutôt retors, mais c'est un peu court. Alors bon, c'est gratuit, on va pas se plaindre. Hein.
Ça a l'air joli en tout cas.
Oui, c'est super joli et c'est super nerveux en fait, ce qui est assez surprenant quand on se souvient du bon vieux Sokoban où les animations prenaient trois plombes pour déplacer une caisse en carton. Là, ça va un petit peu plus vite, c'est assez dynamique, c'est nerveux, t'as les petits persos qui bougent en fonction de la musique et tout, donc c'est vraiment chouette. Et donc voilà, c'est gratuit, 300 mégas, donc ça va pas non plus saturer votre disque dur. Et si vous voulez, bah, vous pouvez malgré tout sortir la CB pour acheter la version pack à 8€, où il y a en plus un artbook et attention, une recette de pancakes. Voilà, donc si tu veux trouver ça plutôt rigolo, si tu veux les aider, si tu veux financer leur projet, bah voilà, t'as un artbook et une recette de pancakes qu'on testera bien évidemment et on vous en reparlera dans Torréfaction.
Évidemment.
Alors c'est l'heure du rant, ça fait longtemps, si je ne dis pas de bêtises, que tu
n'étais
pas...
Petit rant, ouais, parce que d'habitude, tu vois, je me dis non, ça mérite pas, et là, mais là ça mérite, donc tu vas me balancer un jingle et on revient tout de suite.
C'est parti.
On va me dire, oui, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est de la merde.
Alors, un petit rant. Qui prend cher cette semaine.
Un petit rant. J'ai failli appuyer sur ma boîte démon sur ma tête de mixage, tu vois, pour faire...
Dis donc, il faut qu'on parle, mon ami.
Alors, aujourd'hui, on parle de quoi et pourquoi je suis énervé? Parce que nous allons parler d'un truc qui est un événement intéressant, mais qui est devenu une blague. Je veux parler des 60 ans de Sega, qui, pour fêter cet anniversaire, bah, qui est quand même un truc important, tu vois, soit les 60 ans d'une marque, qui est quand même assez emblématique, même si, ça s'est pas très, très bien passé tout le temps. Ça n'a pas été extrêmement bien géré. On oserait peut-être dire que c'est l'ombre de ce que ça a été. OK, bon, mais elle est quand même là et elle fête ses 60 balais, mais avec des annonces, mon petit bonhomme. Mais ce foutage de gueule, ça fait longtemps que je n'avais pas été énervé comme ça contre une marque. Il y a plusieurs volets, en fait, pour fêter leur anniversaire. Ils se sont dit, ouais, on va faire plein de trucs de ouf. Alors, je sais pas ce qu'ils ont raconté à leur contact au Japon, mais ce qui s'est passé, c'est qu'en plus, il y a eu un effet de overhype. C'est-à-dire qu'il y a même des mecs sur Internet qui étaient là, genre, ils vont sortir une nouvelle console.
Bah oui, moi, c'est ce que j'ai entendu partout.
Car je vous rappelle que les gens prennent de la drogue, parfois, et oublient la réalité du monde. Donc, évidemment, d'une certaine manière, ils n'ont pas tort. Sega sort une nouvelle console. Mais c'est une grosse blague. Donc, qu'est-ce qu'ils sortent? Ils nous sortent la Sega Game Gear. Alors, en France, on peut dire Game Gear, démerdez-vous, c'est votre problème. C'est la version micro, en tout cas, cette fois. Et quand je dis la version micro, c'est qu'en fait, ils nous sortent une fumisterie qui fait la taille d'un porte-clés. Hein, donc, tu vois vraiment rien, l'écran, il est tout petit. Et la fumisterie est extraordinaire, car là, il compte sur votre nostalgie pour vraiment vous mettre la douille de l'année. Car ils sortent la console en 4 couleurs, à environ 5000 yens. Donc, on va traduire ça par 50€ pour histoire de faire court, tu vois. Donc, c'est quand même pas donné. Mmh. Et combien tu as de jeux dans une console? 4.
Putain.
Mais attention, pour avoir tous les jeux, il faut acheter les 4 couleurs de la console. Il y a 4 jeux par console, et donc 4 versions de la console. Et donc, il faut acheter pour avoir tous les jeux. Les 4 modèles.
Et ça aime bien l'argent chez Sega. Hein.
Ah, mais là, j'avoue, bravo. Donc, tu as un modèle noir avec Puyo Puyo 2, Sonic the Hedgehog, Outrun, Royal Stone. Tu as un modèle rouge avec Megami Tensei Gaiden, Last Bible, un autre Megami Tensei, et puis un Shinobi et un Columns. En plus, à chaque fois, ils vont te refiler un truc, genre, ouais, celui-là, on s'en fout, mais c'est pas grave. Il en fallait 4, donc on va pas se prendre la tête. La version bleue, tu as Sonic Chaos, Gunstar Heroes, Sylvan Tale, Bakubaku Animal. La jaune, tu as Shining Force Gaiden 2, Shining Force Gaiden Final Conflict. Donc ça, si vous aimez bien Shining Force, rappelez-vous, c'est la jaune qu'il faut acheter. Hein. Et un truc qui s'appelle Nazo Puyo Aronoru. Qui est en fait mon japonais est un peu rouillé, voilà, ça c'est évidemment tous les jeux qui sortent au Japon, hein, c'est pas du tout comment ça va se passer chez nous. Alors techniquement la bestiole tourne en plus sur deux piles AAA ou un câble USB, et évidemment il y a aucun des deux dans la boîte, car comme tu viens de le dire, chez Sega on aime bien l'argent.
Bah oui.
Et c'est plus fort que toi en fait, hein, donc c'est surtout plus fort que leur porte-monnaie, donc tu n'as pas accès à ces trucs là qu'il faudra pas oublier d'acheter en même temps que ta machine. Chine. Donc on est vraiment dans une bonne vieille fumisterie de la nostalgie, comme je les déteste, hein, faut être très très clair. Et le truc qui vraiment achève le tableau du foutage de gueule, c'est qu'en plus, pour pouvoir jouer à ce truc-là, tu comprends très vite qu'il faut une loupe, en fait, tu vois, pour brancher sur le truc, parce que l'écran est tellement petit que tu vois rien. Mais on te la donne que quand tu as acheté les quatre modèles.
D'accord.
Voilà, 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 voilà. Donc là, tu dis, eh ben, écoute, bon anniversaire,
c'est
Sega.
C'est un cynisme.
Ah ouais. Non, c'est magnifique, parce que tu te dis, les mecs, ils auraient pu faire un truc de ouf, ils auraient pu essayer de sortir, je sais pas, moi, une Dreamcast mini avec des trucs rigolos, tu vois, d'essayer de révolutionner un peu le genre. Non, non, là, on te fait l'arnaque du siècle, ça va faire des espèces de montagnes de déchets en plastique, les gens vont jouer deux fois avec et les balancer. C'est pour moi vraiment tout ce qu'il faut pas faire dans ce genre de truc. Donc je suis vraiment atterré. Alors je sais pas comment ça va se passer pour le reste de la planète, hein, parce que pour l'instant on a que les pubs japonaises avec la date de sortie japonaise qui, si je ne dis pas de bêtises, est autour du 6 octobre. Et c'est voilà, on sait déjà que on a plus vraiment envie de les avoir. Donc d'ici le 6 octobre, on aura peut-être oublié, mais on sera toujours un petit peu vénère. Et l'autre annonce qui était soi-disant révolutionnaire par un journaliste qui est un petit peu trop dans sa semaine de la hype, en tout cas du côté du Japon, c'est une annonce pas très clair, tu vois. Ça tombe bien parce qu'on va parler de fog computing. Alors, on connaissait le cloud computing, mais là, il faut descendre. C'est un peu plus brumeux, tu vois. C'est ça que je cherchais comme mot tout à l'heure pour faire ma vanne. C'est du computing de la brume. Hein. Donc, on est dans le brouillard et personne n'a vraiment compris quoi il était question, puisqu'en fait, il n'y a pas vraiment eu d'annonce claire encore sur le sujet au moment où je vous en parle. La chose a l'air de se goupiller de la manière suivante. C'est Sega chercherait à rentabiliser toutes les machines d'arcade qui sont réparties sur le territoire japonais. Donc ça, c'est peut-être une annonce très Japon only, encore une fois. On ne sait pas exactement ce qui va être fait à l'étranger. Mais en fait, le but du jeu, c'est d'utiliser une plateforme qu'ils ont déjà, en fait, qui s'appelle le Sega AllNet Platform, qui est un truc qui relie toutes les bandes d'arcade connectées de Sega au Japon. Et ces bandes d'arcade, elles sont connectées, ça permet de récupérer tes comptes utilisateurs d'une machine à l'autre, sur les joues, tu as des progressions, etc. C'est un système de cartes dans les bandes d'arcade japonais, par exemple, où tu peux justement comme ça être reconnu d'une machine à l'autre et continuer, si tu veux, ton aventure, faire progresser tes héros, etc. etc. Et donc, ce truc-là étant connecté, ils se sont dit, mais ce qui serait bien, c'est d'utiliser cette puissance pour pouvoir vendre un service qu'on ne connaît pas encore, voire faire tourner des jeux en streaming, encore une fois, personne n'en sait rien, ça se trouve, ça sera pas ça. Mais c'est le truc qui est subodoré, et donc ça serait utilisé pour faire ce qu'on appelle du edge networking, qui est pas une technologie nouvelle, hein. C'est un truc qui est fait par Cisco, par exemple, depuis 2014, pour toute une gamme de produits dans le Internet of Things qu'ils exploitent. Et ce truc, en fait, ça serait éventuellement, donc possiblement soit pour fournir un service avec très peu de lag pour pouvoir jouer chez vous directement, puisque comme il y a des salles d'arcade partout au Japon, bah ils se sont dit ça nous fait des centres serveurs partout, on peut peut-être faire un truc avec tout ça. Moi, j'attends de voir, parce que techniquement, en plus, c'est des bécanes qui sont pas franchement prévues pour. On sait pas sur quoi sont connectées les salles d'arcade elles-mêmes, donc est-ce qu'elles ont comme type de connexion, est-ce qu'elles sont capables de faire ça, j'en sais rien. Personne ne connaît le business model autour de ça. Alors, est-ce que ça serait un truc génial, hyper bien pensé, pour que les salles d'arcade ne soient pas toutes en train de crever, parce qu'avec le coronavirus, il y a plein de salles d'arcade qui sont fermées, les gens ne sortent plus, donc économiquement, c'est une cata. Est-ce que ça serait aussi un moyen, justement, de leur faire gagner un peu d'argent, ou est-ce qu'on va leur dire, bah, écoute, tu vas payer les factures d'électricité, et en plus on va rien te donner, comme Sega aime l'argent comme on a vu précédemment, c'est pas impossible, hein. Moi je m'attends à tout maintenant, donc voilà, on va attendre d'avoir plus d'infos pour en reparler, mais c'est extrêmement fumeux et ça fait partie des déceptions, puisqu'on attendait tous un peu des annonces un peu rigolotes de leur part pour les 60 balais. Pour l'instant c'est la douche froide, mais bon, ils auront du mal à faire pire que leur mini console qui rend aveugle. Donc du coup, écoutez, le fog gaming, on en reparlera quand ça sera un peu plus clair. D'ici là, évidemment, gardez vos sous, hein, comme d'habitude.
Et on continue dans le gaming avec une entrée dans la conduite qui me fait me poser des questions. Je vous la lis telle quelle. Elite Dangerous tease les Space Legs. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce qui se passe? Ah là là, les Space Legs. Il faut être un peu effectivement fan de jeux qui se passent dans l'espace pour connaître l'expression des Space Legs. En fait, c'est la possibilité de sortir de ton vaisseau spatial.
D'accord.
Tout bêtement, historiquement, Elite Dangerous, il y a plein de gens qui se disent oui, mais une fois que je suis dans la base, je veux pouvoir sortir de mon vaisseau, faire des trucs, me poser sur les planètes, bah c'est génial. C'était un truc qui est arrivé avec l'extension Horizon. Après, les gens étaient, bah oui, c'est génial, je suis posé sur la planète, alors je peux prendre mon petit rover de l'espace et me balader, mais moi, ce que je veux, c'est sortir du vaisseau. Donc voilà, des relous, tu vois. Moi, ce que j'aime dans les jeux comme Elite Dangerous, c'est piloter le vaisseau, tu vois, puisque c'est le cœur du gameplay, le reste, j'en ai un peu rien à foutre.
En fait, c'est des mecs qui ont lâché Star Citizen et qui sont venus sur Elite Dangerous, qui ont réclamé ce genre de trucs.
C'est même pas, c'est, je pense qu'il y a vrai, il y a un vrai problème de personnes qui veut vraiment se projeter dans ce genre d'univers, mais oublie un léger détail, c'est que pour que ça ait un intérêt, il faut du gameplay. Sans gameplay, tous ces trucs-là n'ont absolument aucun intérêt, et on l'a vu avec les exemples de Star Citizen, ça peut virer à la grosse blague très très vite, où Star Citizen te fait attendre un putain de métro pendant je sais pas combien de minutes dans un jeu vidéo, parce qu'il faut que ça soit réaliste. C'est horrible, c'est l'antithèse du gameplay. Est-ce que ça doit être drôle? Rajoutez des trucs dans vos jeux vidéo si c'est intéressant, si c'est drôle. Si c'est chiant, virez-le. On n'est pas en train de jouer à des jeux vidéo pour se faire chier quand même. Et surtout pour refaire des trucs de la vraie vie qui sont déjà pas intéressants dans la vraie vie. Enfin, ça me paraît quand même assez basique comme idée. Donc là, c'est l'annonce tout bêtement en fait d'un truc qui va sortir en 2021. Alors au début 2021, mais en ce moment les dates des sorties jeux vidéo, j'ai envie de vous dire, ça peut être fluctuant. Une extension qui va s'appeler Elite Dangerous Odyssey, et effectivement pour la première fois on a donc les personnages qui sont montrés en train de sortir de leur vaisseau sur une planète qui semble avoir de la une atmosphère, ce qui est pareil, hein, c'est pas le cas pour l'instant, hein. On voit un vaisseau qui passe au-dessus des personnages avec de la poussière qui est soulevée, etc. Bon, c'est un peu Tatooine, il hein, n'y a pas trop de ville, on est un peu sur un truc rocailleux non plus, hein, vous attendez pas non plus pour l'instant à autre chose, ça a été release d'une manière un peu bizarre, c'est qu'en fait la vidéo est sortie sur le compte internet de nos amis de chez Frontier Development, mais elle a été immédiatement retirée. Mais évidemment, Internet, c'est Internet. Donc, il y avait quelqu'un qui l'avait téléchargé, qui l'a re-uploadé sur son compte. Donc, c'était trop tard. Donc, finalement, ils l'ont annoncé. Ils ont même mis la page Steam qui va bien pour le mettre dans sa liste de souhaits, la chose. Mais il y a une pauvre vidéo et un screenshot. Donc, très clairement, ils sont pas en train de survendre le jeu, tu vois. C'est genre, merde, putain, maintenant, ils savent que ça existe.
Ça.
On va être obligé de le faire. Mais, ils parlent de deux, trois choses. C'est extrêmement vague. Alors, on nous parle de c'est un peu du bullshit, ça va être un bond de géant, tu vois, découvrir la galaxie comme jamais auparavant. Là, tu sais que les mecs sont en galère, en fait. Il a fallu écrire ce texte, mais ils n'avaient pas grand-chose à raconter. Donc, admirer des horreurs magnifiques dans des paysages inoubliables, on s'en fout. Et repérer avant-poste et installation, très bien, mais qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on est là? Donc, en fait, ce qui manque pour l'instant, c'est de savoir exactement ce qu'on va avoir comme mission. Est-ce qu'on est dans un gameplay FPS? Est-ce que c'est la flip? Est-ce qu'ils vont faire un FPS pourri comme Star Citizen, ou est-ce qu'ils vont faire un truc intéressant? Est-ce qu'on pourra se balader sur des planètes, attendre que des mecs se posent et leur piquer leur vaisseau? J'en sais rien. Qu'est-ce que c'est que leur technique de hub, où on va pouvoir a priori monter des bandes de mecs pour aller faire des missions ensemble? Et on nous parle des sphères de combat qui... alors là, on est dans le teasing de FPS, hein, puisque je vous lis le truc tel quel en français. Participer à des combats en vue subjective intense. Équipez vos vaisseaux d'armes et modules variés et coordonnez les actions de vos coéquipiers afin de dominer un environnement tactique et complexe lors d'un balai mortel où se mêlent commandants, VRS et navires interstellaires. Point final. Donc voilà.
C'est pas une sorte de battle royale dans l'univers de Elite Dangerous, hein?
Tout, tu vois, à partir de là, tu peux projeter tous tes désirs, parce qu'en fait, les mecs ont tout, ils ont dit un truc, mais en fait, ils ont rien dit.
C'est comme les horoscopes, tu dis ce que tu veux, en fait.
Voilà, donc, si vraiment vous voulez rigoler, baladez-vous sur les forums des fans, baladez-vous sur Reddit. Le seul truc que moi, je sais, c'est que Frontier Development, ils ont des équipes carrées et qui se font normalement des choses qui tiennent à peu près la route, pas comme certains, dont le nom commence par Star et finit par Citizen. Donc, on peut espérer avoir quelque chose en 2021 intéressant à ce niveau-là. Est-ce que ça sera réussi? Est-ce que ça sera vraiment bien? J'en ai aucune idée. Pour l'instant, tout le monde est en mode on tire des plans sur la comète. J'attends de voir ce que ça va donner. Je suis un petit peu inquiet parce que vraiment, pour l'instant, tous les trucs qui ont voulu mêler univers, FPS, on vous fait sortir de votre vaisseau et l'univers spatial se sont gamélés ou ne sont jamais sortis. On pourrait parler des projets autour de EVE Online qui ont été rigolos. Si on aime rire jaune, évidemment. Et donc, pour le moment, c'est vraiment, vraiment que des suppositions. Il va falloir prendre votre mal en patience. Mais maintenant que ça a été annoncé, on était obligé d'en parler, puisque ça reste un de mes jeux préférés. Voilà, j'aimerais pas qu'il me foire mon jeu préféré, ça va m'énerver sinon, c'est tout.
Allez, on termine la section gaming avec Kingdoms of Amalur.
Ah là là, qui revient. Alors vous, parce que Kingdoms of Amalur, c'est pas vraiment une nouveauté. Hein. Mm-hmm. C'est un vieux jeu, un RPG qui a été encensé par certains qui disaient que c'était un jeu méconnu, qui méritait vraiment plus de succès, etc., etc. Bon, c'est un truc pas mal. Hein. Je trouve que pas mal de gens le survendent et ont un peu oublié qu'il y avait quand même plein de trucs un petit peu chiants. Mais la nouvelle qui est tombée, alors qu'on ne l'attendait pas du tout, c'est que le 18 août, THQ Nordic va nous sortir une version remasterisée du jeu qui s'appelle, tu t'accroches, hein, c'est Kingdom of Amalur Re-Reckoning, tu vois,
okay.
Humour, drôle, c'était Reckoning, donc là c'est le Re-Reckoning. Bon bah d'accord, très bien, donc évidemment avec le petit traitement HD qui va bien, on vous a rajouté des textures, on y a mis tous les DLC, on a secoué ça très fort et on va certainement nous vendre ça full price. Bon, bah alors, il y a plusieurs problèmes dans cette histoire. C'est que, bon, le jeu, personne n'avait vraiment demandé un remaster, mais pourquoi pas? Il y a toujours des fans et il y a largement pire qui est sorti dans le genre, donc ne boudons pas notre plaisir. En revanche, il y a plein de gens qui pointent du doigt le fait que le jeu original avait été développé par un certain Kurt Schilling de Big Huge Games et 38 Studios, qui était un mec qui a quand même fait un prêt, qui était un petit prêt, tu vois, de 75 millions de dollars, qui avait été attribué par l'État de Rhode Island pour qu'il puisse s'installer là-bas. Non, viens faire des jeux chez nous, ça va être génial. Et le mec, en fait, c'est une ancienne star donc du sport. C'était un pitcher pour les Red Sox.
Okay.
Donc, tout le monde était un peu fan du gars. Et lui-même a claqué 50 millions de dollars dans l'histoire. Donc, tu vois, le mec, il a pas non plus que arnaqué, hein. Il a vraiment fait ça n'importe comment, mais avec sa thune aussi. Respect total. La boîte a explosé parce que ça a été géré n'importe comment. Les gens étaient trop payés, mais pas les bonnes personnes, a priori, tu vois. Donc, ça s'est très, très mal fini à tel point que le jeu est sorti alors que l'équipe avait pas été payée depuis 2 mois et n'a jamais été payée, en fait. Donc, THQ Nordic avait fini par récupérer les droits. Donc, ce remaster va sortir, mais les gens qui avaient été lésés à l'époque et qui avaient bossé sur le jeu ne vont voir absolument aucun sens de tout cet argent. Du coup,
capitalisme.
Ouais, et puis tu vois, il y a plein de gens qui sont en train de se dire, est-ce que j'ai vraiment envie de supporter cette OP, tu vois,
ouais.
Puisque finalement, tu files de l'argent à des gens qui n'ont pas fait le jeu, qui ont vite fait rebosser le jeu par une équipe très réduite, et puis tous les gens qui s'étaient arrachés à l'époque et qui se sont fait enfumer, eux, ils vont avoir un centime de tout ça. Donc en termes de marketing, je souhaite bon courage à THQ Nordic parce que là, le projet vient d'être annoncé, donc j'imagine qu'il va y avoir un petit backlash qui va se monter au fil des semaines sur le net. Et puis sinon le jeu est toujours dispo et pouvez le refaire sans aucun problème pour une somme modique. Ils toucheront pas plus d'argent de toute façon les autres, mais je suis pas certain que le remaster ait un intérêt de ouf. En tout cas, on va suivre ça. Si jamais c'est une excellente surprise, on en reparlera.
Allez, on passe du côté des apps et je voulais vous parler d'un joli cadeau des petits gars d'Isotope, puisqu'ils viennent de filer gratuitement un ensemble d'effets virtuels qui vaut d'habitude 130 balles, donc c'est plutôt un beau cadeau.
On aime ces cadeaux.
Alors c'est quoi? C'est Isotope Ozone 9 Elements, donc c'est la version Elements, la version basique de Isotope 9 Ozone, qui est leur soft phare en fait de ce qu'on appelle du mastering. Donc c'est tout ce qui te permet en fait, si tu veux, une fois que t'as fini de produire ton morceau de musique ou ton podcast, de donner une petite touche finale, de corriger un peu les trucs qui vont pas, de faire de l'égalisation, de la compression, du boulot sur le champ stéréo, et donc le plugin intègre tous les outils qui permettent de faire ça. Alors comme c'est la version Lite, c'est pas la même quantité d'outils que dans la version Advanced, mais c'est déjà pas mal pour bosser. Et il y a en outre un assistant, alors tout ça est basé sur du machine learning, qui va analyser ton morceau, qui va faire des recommandations en disant tiens, moi je mettrai un petit peu plus de basse ou je baisserai un petit peu les aigus. Alors ça reste une base de travail, il va pas te donner un truc ultra chiadé d'entrée de jeu, mais c'est un vrai chouette outil pour les gens qui découvrent le mastering. Et je pense qu'à l'heure actuelle, vu tout le monde qui se met à faire du podcast et pas toujours de manière très bien produite, c'est un outil plus qu'intéressant. Bref, pour 0 balles, faut vraiment foncer, faut pas hésiter une seule seconde. Juste 2 petits avertissements. Le premier, c'est qu'il faut pas traîner parce que je crois que la promo se termine aujourd'hui, donc foncez. Et le second avertissement, c'est que ça risque de vous donner envie d'acheter la suite complète, en fait, qui, on va pas se voiler la face, propose pas mal de subtilités en plus, comme la possibilité, par exemple, d'utiliser des compresseurs vintage, en plus des compresseurs modernes qui sont proposés dans Elements. Mais là, évidemment, ça monte tout de suite un peu plus cher parce que c'est 500 balles. Donc voilà. Mais allez quand même chercher la version gratos d'Elements. C'est un petit cadeau de 130 balles, donc ça ne se refuse pas. Et puis, si ça vous permettra peut-être de donner un nouveau souffle à vos productions audio, ou en tout cas de découvrir les mystères et les arcanes du mastering. On reste dans les apps avec Retrospex.
Retrospex, un petit truc qui sert à rien et donc qui est indispensable.
je voulais, ça faisait longtemps, tiens.
C'est ça, je voulais faire une news cette semaine sur Geekzone. Je n'ai pas eu le temps, mais je vais le faire très très bientôt, car j'attendais des images beaucoup plus intéressantes que celles que je peux générer avec ce petit outil. C'est une application iOS only qui est gratuite, avec des achats in-app, comme on dit, qui en fait permet d'appliquer des filtres à vos images. Alors évidemment, des applis comme ça, il y en a un milliard, donc vous dites, mais quel est l'intérêt? Parce que c'est un truc spécial nerd, les amis, c'est pour nous, c'est un truc spécial geekos.
Alors que ça fait des rendus en ASCII.
Oui, si tu veux.
C'est vrai.
C'est vrai. Parce que en fait, c'est une application qui reprend plein de machines du passé.
D'accord.
Et qui va te permettre de faire des rendus, de retravailler ton image comme si t'étais limité à la palette de couleurs pourries d'un ZX Spectrum, d'un MSX, d'un Commodore 64, du Nintendo Game Boy, de l'Amiga, etc., etc. Il y a énormément de choix à l'intérieur. Et en plus, pour chacune de ces machines, l'auteur s'est bien pris la tête, puisque du coup, tu peux avoir accès aux différents modes graphiques des différentes bécanes, pas juste un truc pris au pif, non. Et en prime, et c'est là où ça devient intéressant, c'est que le mec est en train de bosser avec un artiste de la démo scene de chez nous qui s'appelle Made, qui va m'aider d'ailleurs à faire la news pour Geekzone, en fournissant quelques images et quelques infos intéressantes. En fait, tu vas pouvoir bloquer ta palette de couleurs pour faire ta transformation, ce qui va te permettre d'avoir justement une palette de couleurs plus intéressante au moment où tu fais ta transformation, parce que si tu fais un truc random, ton résultat final risque d'être un petit peu pourri, c'est pas très intéressant, alors que là, avec une palette de couleurs que tu as prédéfinie, tu vas pouvoir avoir des choses vraiment vraiment réussies, quoi, vraiment rigolotes. Donc c'est une appli qui est gratos, qui fonctionne sur iPad et sur iPhone. La version iPad est plutôt bien adaptée, même si c'est pas encore ultime au niveau de l'exploitation de la taille de l'écran, mais ça fonctionne très bien. Et à l'intérieur, vous avez donc un achat pour débloquer toutes les bécanes, sinon il y en a certaines qui sont pas accessible avec la version gratuite. Ça coûte la somme faramineuse de 3 ou 4 €, je crois. Donc, vous allez pas vous ruiner. Et si vraiment vous devenez fan du truc, il y a un système de tips, en fait. Donc, pas mal d'applications maintenant sur iOS. Tu peux tipser les gens, tu peux leur donner un pourboire. Mmh. Et voilà, en disant, ton app, elle était pas assez chère par rapport à ce que je l'aime. Donc, je te donne de l'argent. Et ça me fonctionne plutôt pas mal. Il y a un mec comme ça qui fait une app pour Reddit qui s'appelle Apollo, qui est la meilleure application pour balader sur Reddit, je pense. Et d'ailleurs, c'est la seule manière qui, moi, me rend Reddit supportable, pour être très honnête. Et le mec, justement, a un système de tips comme ça, où il gagne plutôt très bien sa vie. Donc, on reparlera sur Geekzone de Retrospex dès que j'aurai fini de faire mumuse avec et que j'aurai des images rigolotes à vous proposer. Mais sur le site officiel que je vous ai linké dans le billet qui accompagne le podcast, vous verrez qu'il y a plein d'exemples extrêmement intéressants à regarder déjà pour voir un petit peu ce que ça peut donner. C'est vraiment, vraiment bien fichu. Il y a des bonnes idées. Alors évidemment, quand on ne sait pas trop s'en servir, on n'arrive pas tout de suite à ce genre de résultat. Mais ça fait partie de l'amusement que procure ce truc-là. À terme, les gens qui viennent de la démo scene espèrent avoir un outil qui leur permettra de faire des choses intéressantes. Pas juste Mumuse, mais d'en faire un vrai Photoshop, entre guillemets, pour faire générer des images à l'ancienne, sans se prendre la tête avec des algorithmes à faire soi-même. Donc, allez voir ça, c'est assez intéressant. Et en tout cas, le mec fait ça ultra pro et il suit son produit depuis déjà très longtemps. Et apparemment, il y a encore plein d'évolutions de prévues.
Allez, on passe du côté de la culture et c'est ce moment du podcast où je vais me sentir un peu seul.
Ouais.
On va parler de Space Force.
Ouais, non, mais c'est fini, Fast. Regarde, moi je vois, on est à 35 minutes là déjà. Les gens savent pas, mais je pense qu'il faut couper, faut se dire au revoir, hein. Ça sert plus à rien.
Allez, je vais la faire vite, puisque je suis un peu seul contre tous là. Donc Space Force, c'est quoi? C'est la nouvelle série de Steve Carell et Greg Daniels. Greg Daniels, c'est un monsieur qui avait bossé sur The Office. C'est produit par Netflix et en gros, c'est une satire qui s'inspire très vaguement de cette volonté de Donald Trump, donc de créer une Space Force, donc une force militaire dans l'espace. Alors ceux qui s'attendaient à The Office, ils vont être un peu surpris parce qu'on est moins dans la caricature et un gag toutes les 30 secondes. On est plus sur la longueur et perso, plutôt, bah moi j'ai vraiment bien aimé le traitement des personnages, qui sont finalement assez attachants. Mention spéciale à celui incarné par John Malkovich, qui vole un peu la vedette, c'est vrai. Alors la série a actuellement 44% côté critique sur Rotten Tomatoes, c'est pas génial, contre 77% côté public, donc ça va, ça contrebalance encore un petit peu. Je voulais en parler malgré tout parce que bah voilà, je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas aimé sur Geekzone, on en a parlé dans les forums, on n'est pas très nombreux à avoir apprécié, mais je me suis dit, moi j'ai bien aimé, ce serait dommage que les gens passent à côté à cause de mauvaises critiques, donc allez quand même jeter un œil, et puis si c'est pas votre cam, bah c'est pas votre cam.
Voilà.
C'est 10 épisodes sur Netflix en ce moment, et Caf, je sais que lui, c'est pas sa cam.
Non, mais en plus, Steve Carell, ça a jamais été un mec qui me vendait, tu vois, de base une série, c'est très rare, et, mais là, j'ai vraiment trouvé ça très mauvais, et, du coup, je sais que ça va être clivé, tu vois, les avis. J'attends de voir les retours sur le forum en disant, dis donc, Fasquille, il faut qu'on parle. Démerdez-vous. Hein. Moi, j'avais prévenu, il a voulu en parler quand même, c'est votre problème.
Allez, on va se terminer cette 134e édition de Torréfaction avec deux news musicales. Je voulais vous parler d'abord de Tales of Wonder Jazz Celebration of Stevie. Petite découverte que j'ai faite un peu par hasard en cherchant tout à fait autre chose. C'est un court album, une trentaine de minutes, de reprises jazz instrumentales de morceaux de Stevie Wonder. Donc voilà, c'est très accessible, c'est parfait pour bosser ou se détendre en se vidant la tête et découvrir donc les compositions de Stevie Wonder sous un nouveau jour. Derrière le projet, il y a que des noms que je ne connais absolument pas, vu que mes connaissances du lore jazz sont particulièrement inexistantes. Donc plutôt que d'en parler pendant des heures, je propose d'écouter un court extrait, la reprise de Send One Your Love, version jazz donc. Send One Your Love, version jazz, donc tirée de cette chouette compilation baptisée Tales of Wonder, Jazz Celebration of Stevie. Et puis on termine avec le nouvel album de Ron de Jules, RTJ4. C'est le nouvel album donc de ce duo de rappeurs américains. L'album devait initialement sortir aujourd'hui, finalement ils l'ont lâché dans la nature mercredi, parce que why the fuck not. Et vu que c'est la pandémie, le chaos dans les rues aux États-Unis, bref, vu que tout le monde en chie un peu en ce moment, eh bien ils ont décidé de filer ce nouvel album gratuitement. Et ça, comme on dit ici, c'est plutôt cool. Il suffit de s'inscrire sur leur site, à leur newsletter, c'est assez classique, et hop, vous pouvez récupérer donc ce quatrième opus sans sortir la CB. Alors comme d'habitude avec Run the Jewels, c'est du rap bien vénère, avec une prod qui devrait normalement faire trembler vos caissons de basse. Et on va d'ailleurs faire l'essai tout de suite avec un extrait, Just, un morceau sur lequel on retrouve en guest des petits inconnus, comme Pharrell Williams et le chanteur de Rage Against the Machine, Zach De La Roca.
Ah oui.
Mastered economics, cause you took yourself from squalor. Slay. Mastered academics, cause your grace said you were scholar. Slay. Mastered Instagram, cause you can instigate a follow.
Shit.
Look at all these slave masters posing on your dollar.
Get it?
Yeah. Look at all these slave masters posing on your dollar.
Get it?
Yeah. Look at all these slave masters posing on your dollar.
Get it?
Look at all these slave masters posing on your dollar.
Get it?
Yeah. Look at all these slave masters.
Been it time, I'm on mine, I be minding mine. Every time, on my grind, I'm just trying to shine. Make a dollar, government, they want a dozen dimes. The petty kind might kill you cause they see you shine.
Just, donc tiré du quatrième album de Run the Jewels, tout simplement baptisé RTJ4, et qu'on peut récupérer donc gratuitement sur leur site. Et c'est la fin de ce 134e épisode de Torréfaction. Si tout va bien, on se retrouve la semaine prochaine, 8h, pour une nouvelle sélection de l'actu. Et puis nous, on va se mettre en week-end, ce qui revient à dire qu'on va continuer comme les jours de la semaine à bosser et à avancer dans nos
Trucs de freelance, tu veux dire ?
Oui, c'est ça.
C'est ça que tu voulais dire. Parce que la vie d'un freelance, elle est magnifique. Et je veux dire, c'est la liberté de travailler même le week-end. C'est comme ça que ça marche, les gars. Ne vous laissez pas avoir. Hein. Prenez des boulots de salariés. 9 to 5. Planquez-vous, les gars. Non, moi, je vais essayer d'aller avancer sur des petites nouveautés dont je peux pas parler. Parce que toi, tu parles de Space Force. Mais moi, j'ai découvert Bosch. Mais vu que j'ai 6 saisons de retard, je vais pas en parler maintenant. Mais je découvre des trucs rigolos, tu vois. Donc, j'en profite. Je rattrape mon backlog, y compris de ce côté-là aussi.
C'est bien. Allez, bon week-end, à la semaine prochaine. Ciao.
Ciao, ciao.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Salut, c'est Pipo.
Salut, c'est Gotoz.
On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo.
Du récent ou du rétro, de la console ou du PC.
Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes.
Pendant 2 heures, on passe la musique de vos jeux préférés.
Et on s'intéresse à ceux qui la font.
Les démons du midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur geekzone.fr.